Shalom uvracha, boker tov lekoulam. Et bienvenue dans notre nouvel épisode, le 15e épisode de la Nevoa dans tous ses états. Donc voilà, boker tov, est-ce que tout le monde m'entend et qu'on peut commencer notre étude? Donc faites-moi signe si effectivement on m'entend et comme ça on peut commencer. J'attends un tout petit signe de vie de votre part. Voilà. Donc, dites-moi. Oui, oui, non, non, on peut commencer. Ken, Ken, Lolo. Est-ce qu'on m'entend? Houston. Oui, très bien. Alors, c'est parti, les amis. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop là. Yala. Une pizza. Très bien. Ça marche, c'est bon. Et donc, la Nevoa dans tous ses états, shalom, shalom, épisode 15. On est, ça y est, ça y est. On a parlé de Shlomo, on a parlé de son couronnement, on a parlé de Shlomo le sage la semaine dernière, Mishpat Shlomo, qu'est-ce que cela veut dire, tout ça. Maintenant, on peut arriver à la fin de l'histoire. En fait, notre étude de ce matin, qui va se concentrer autour du chapitre 8 et 9, du livre de Melachim Aleph, chapitre Chet ve Tet de Melachim Aleph. Ce chapitre, cette étude aurait dû être la dernière. Puisque ça y est, le Tanakh aurait dû se terminer à cet endroit-là. Zéou, on arrive à la Pisga, on arrive à l'idéal du judaïsme. Ça y est, Shlomo va construire le Beit HaMikdash. Et ça va être l'inauguration du Beit HaMikdash. Zéou ! Zéou, c'est terminé ! Alors, évidemment, si le Tanakh continue, c'est que ça, c'est pas vraiment Zéou, Zéou, Zéou. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi, mais il va falloir surtout essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette réalité absolument extraordinaire où on a le Beit HaMikdash. Alors, allons-y. Donc, on est chapitre 8, Melachim Aleph. אז יקהל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות לבית ישראל, לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, לעלות את ארון ברית השם, מאיר דוד, היא ציון. Donc la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle chez nous, הכנסת ספר תורה. C'est-à-dire qu'on va rentrer ארון הברית. ארון ברית השם, מאיר דוד. Pour le moment, Aaron, elle n'était pas donc au Beit HaMikdash, puisqu'il n'y avait pas. David l'avait mise dans une tente qui était posée sur le Haram Moria, mais pendant les travaux, évidemment, que Aaron, elle a été déplacée à Ir David, parce qu'on n'allait pas la laisser en plein milieu du chantier. Donc la première chose à faire, c'est de ramener Aaron Berit Hashem Bamakom. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire Aaron Berit Hashem? Qu'est-ce que c'est Aaron Berit Hashem? Eh bien, cette brite, elle est sur une dimension. L'autre nom de Aaron Abrit, c'est Aaron à Edout. Aaron à Edout, pourquoi? Eh bien parce que dans l'Aaron, il y a la Edout. Et cette Edout, c'est en elle-même la Brit. Edout, témoignage, Brit, alliance. Aaron Berit Hashem, l'arche qui fait l'alliance avec, entre HaKadosh Baruch Hu et nous, cette alliance tient sur le témoignage, tient sur le fait que Akadosh Baruch Hu nous a parlé et nous a dit Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Aaron Abrit, c'est le témoignage que Dieu nous a choisi et ne nous abandonnera jamais. Ah donc, fort de cela, on va la rentrer dans le Beit HaMikdash. Une fois qu'on a rentré l'Aaron, on peut commencer les festivités. Az Yakel Shelomo. Verset bête. Vaikalu el melech Shelomo kol ish Israel beyerach haetanim bachag hu achodesh hashevi. C'est parti. Inauguration du Beit HaMikdash. Les portes ne s'ouvrent pas pour laisser passer l'Aaron jusqu'à l'évocation de David. Zenachon, 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 Zenachon. Mais ça, on va le voir un tout petit peu plus tard. Donc, Léat, Léat. C'est-à-dire ויקהלו המלך שלמה, ויקהלו אל המלך שלמה, כל איש ישראל בירח האיתנים בחג, הוא החודש השביעי. L'inauguration donc du Beth-Amigdash va se faire, évidemment avec tout le peuple juif, mais il va se faire en Tishrei. Achodesh Hashevi. Vatshela ilama. Mouzar. Mouzar de faire l'inauguration du Beth-Amigdash Bachodesh Hashevi. Le Mishkan, lui, a été inauguré Bachodesh Arishon, en Nissan. Pourquoi le faire Bachodesh Hashevi? Eh bien, la raison est très simple. Car Chodesh Hashevi, ze yerach ha'eitanim. Ok? Azma, qu'est-ce que c'est, Bichlal, yerach ha'eitanim? Eh bien, yerach ha'eitanim, les amis, c'est tout simplement, littéralement, le mois des puissants, le mois des forts. Moul, nous dit Yonatan Ben Uziel. Yonatan Ben Uziel, dans son Targum ici, dans sa traduction, ne se contente pas de traduire, il va également expliquer. Et il nous dit, pourquoi est-ce que ce mois de Tishrei s'appelle Yerach Ha'etanim? Eh bien, pourquoi est-ce que ces gens-là de l'époque s'appellent des puissants? Il nous dit Yonatan Ben Uziel, car c'est le mois avec lequel les anciens commençaient à décompter l'année. Nous, depuis la sortie d'Égypte, on a changé de calendrier et le début de l'année est en Nissan. Yonatan Ben Uziel, avant, c'était en Tishrei. Il y a fait Meod. Il y a fait Meod. Donc, c'était en Tishrei. D'ailleurs, Yonatan Ben Uziel n'est pas le seul à nous expliquer que la dimension, enfin que le mois de Tishrei était le mois par lequel, à l'époque, on commençait l'année. C'est marqué également dans les lettres de Hammurabi. Hammurabi était un roi babylonien dans l'époque d'Abraham Avinu, un petit peu avant Abraham Avinu d'ailleurs, qui a écrit le fameux code de Hammurabi. Le code de Hammurabi est un des premiers codes de loi qu'on ait retrouvé dans l'humanité. Que le code de Hammurabi écrit également des lettres. Et on a retrouvé parmi ces lettres-là une qu'il envoie aux prêtres de Babylone. Babylone était une civilisation lunaire et qui avait un calendrier lunaire. Donc, les saisons changent pas d'époque, j'allais dire les mois, des fois l'hiver peut être à tel mois et ainsi de suite. Qui sont comme les musulmans aujourd'hui, qui ont des fois le ramadan en hiver et des fois en été. Et donc, comme Hammurabi ne veut pas qu'il y ait trop de chamboulements dans son pays, il dit au Kohané Bavel, au prêtre de Babylone, l'année n'est pas à sa place. Rajoutez-lui un deuxième Elul. Elul Sheni. Comme nous, qui avons un calendrier et lunaire et solaire, on ne veut pas que Pessah ne tombe pas au printemps. Et donc, de temps en temps, on rajoute un Adar Sheni. Pourquoi on rajoute Adar? Eh bien, parce que d'après le judaïsme, Nissan est le premier mois. Donc, le dernier mois, on rajoute un deuxième. Eh bien, si donc Hammurabi a décidé de rajouter un Elul Sheni, c'est que le premier mois, c'était bel et bien Tishrei. Donc, comme ici nous dit Nathan Ben Uziel, c'était le mois de Tishrei. Azlama, eh bien, c'est le mois par lequel les nations ont toujours commencé à compter. Ce qui veut dire que le Mishkan, qui a été inauguré en Nissan, c'est le temps juif. Le Mishkan, qui est dans le désert, ne sert qu'au peuple d'Israël. Et donc, il est évident que son inauguration doit être au moment propice pour le peuple d'Israël. Mais le Beth Amigdash va avoir une dimension universelle. Effectivement, comme tu dis, Alex, le Beth Amigdash va avoir une dimension universelle. Comme tu dis, Ki Beiti Beitefila Ikare Lechol Ha'amim. Et donc, il était nécessaire que l'inauguration du Mishkan soit dans le temps des nations, dans le temps du monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'inauguration va se faire au mois de Tishrei. Au mois de Tishrei, et on va voir que cette inauguration se fait du 7 au 14 Tishrei. En fait, c'est l'inauguration qui ouvre et qui prépare la fête de Sukkot, qui est la fête pour les nations. La fête où on va faire les Shivim Parim, les 70 Korbanot, par rapport aux 70 Umot Haolam. Mais pourquoi c'est d'autant important cette chronologie annuaire? Je refuse de croire que c'est juste technique, et parce que ça arrange qu'on ait fait tout ça. Ah, ben évidemment que ce n'est pas simplement de la technique. Notre perception du temps équivaut à notre perception de nous-mêmes dans le monde. La notion de temps est une notion que l'homme a toujours essayé d'apprivoiser comme étant le moyen qu'il avait de se percevoir dans ce monde. Dans la mythologie grecque, Chronos, donc la personnification du temps, est celui qui veut empêcher l'avènement d'une nouvelle ère. Et il veut manger ses enfants, y compris Zeus, qui va réussir par un stratagème à ne pas se faire bouffer par Chronos. En d'autres termes, le temps, c'est la façon dont l'homme a de se percevoir dans le monde. Donc, la façon dont j'ai de percevoir le temps est fondamentale parce qu'elle explique la façon, le regard que j'ai sur moi-même. Lorsque je décide que le début de l'année commence en Tishrei, ça veut dire quelque chose. Tishrei, c'est le moment de l'automne, c'est-à-dire le moment où, de manière, on va dire, visuelle, tout est en train de mourir. Alors que, en Nissan, c'est le début du printemps. C'est le début où tout arrive à un renouveau. Les nations commencent à compter le temps par Tishrei, car elles ont une vision pessimiste sur le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe français Paul Valéry qui disait « Les civilisations se savent mortelles ». En d'autres termes, il y a un regard assez pessimiste sur la perception d'eux-mêmes. Am Israël a besoin de venir expliquer au monde que non, Tishrei n'est pas un moment de rasra, n'est pas un moment de déprime permanente, mais au contraire, c'est le moment de ce qu'on appelle Aberacha Asmuya Mina Ain. Dit la Gemara dans le traité de Ta'anit que En Aberacha Asmuya Ela Bedavar Shesamui Mina Ain. La Bracha, la résurrection, se trouve dans un moment où les choses ne sont pas visibles. Le Beth Amikdash inauguré en Tishri vient expliquer au monde que ce n'est pas parce que quelque chose est pour l'instant non visible qu'il est en train de mourir. Au contraire, il se prépare à pouvoir ressortir. Donc la fête de, enfin l'inauguration en Tishri n'est pas seulement technique. Elle vient expliquer que même pour le peuple juif, Tishri a un rôle. Si Nissan est la renaissance, Tishri est la préparation. C'est la grande marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua dans le Talmud de savoir est-ce que le monde a été créé en Nissan ou est-ce qu'il a été créé en Tishrei. Rabbi Yehoshua dit en Nissan, Rabbi Eliezer dit en Tishrei. Tosfot va nous dire au nom de Rabbeinu Tam qu'en fait, ça dépend de quoi on parle. Le monde a été créé, accouché en Nissan, mais il est tombé enceinte en Tishrei. Ce qu'on dit dans la fila de Rosh Hashanah, Ayom Arat Olam, Arat Erayon, il est tombé enceinte. Donc ça veut dire que ce monde créé en Tishrei, pensé du moins en Tishrei, est la préparation à la sortie concrète en Nissan. Tu dis, le Mikdash aurait pu être inauguré à Sukkot, c'est plus logique. Eh bien non, parce que si on l'avait inauguré à Sukkot, on n'aurait pas pu faire les Shivim Parim, on aurait fait simplement les Korbanot Amiluim. Il faut d'abord l'inaugurer pour pouvoir eh bien, commencer à avoir cette péoula universelle à Sukkot. Donc voilà. Vayavou kol zikne Israël, vayisou akohanim et Aaron, vayalou et Aaron Hashem velo el moed ve et kol kele hakodesh asher baoel, vayalou otam akohanim ve alevim, ve amelech shelomo ve kol adat Israël anoadim alav, ito, lifne Aaron, mezabechim tzon ubakar asher lo yisaferu ve lo yimaru merov. והביאו את הכהנים את אהרון ברית השם אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקירויים. Aha, c'est intéressant cette histoire. On nous dit ici que ça y est, on va amener Aaron ברית השם אל דביר הבית. מה זה אל דביר הבית? בבית קודשי הקודשים. Oui, on sait que l'endroit du Aaron, c'est Bekodesh HaKodashim, mais c'est la première fois qu'on entend parler de cet endroit comme étant Mekom HaDvir. Dvir, ça veut dire Makom HaDibur. En d'autres termes, le Aaron, on a dit, c'était la Edout. La Edout, la témoignage que quoi? Que Dieu nous a parlé. Mais elle est aussi Aaron HaBrit, que Dieu continue de nous parler. En d'autres termes, L'Aaron se trouve dans l'endroit du Dibour pour montrer que cette relation panim el panim, de dialogue entre le créateur et la créature, eh bien, ne s'arrête pas. Vous allez me dire, eh oui, mais hey, il s'est arrêté. Ça fait 2400 ans qu'il n'y a plus de Dibour, Nachon. Mais avant de fermer le Dibour, il a promis qu'il allait reparler. Comme il est marqué dans le livre de Yoël, mais ça, on verra quand on arrivera au livre de Yoël. Et donc là, on dit qu'il y a Kérouvim, Ezra, la baït, Kodesh HaKodashim, El Tachat Kanfe à Kérouvim. Donc ça y est. Maintenant, le Aaron est posé, Mitachat, la Kérouvim. La Kérouvim, il y en a deux. Il y a les Kérouvim qui sont sur le Aaron, et il y a également les Kérouvim qui sont sur la Parochet que Shlomo a mis en place dans le Bet HaMikdash. Et là, on voit qu'il y a Kérouvim pour se kenafaim el mekom Aaron, vaya soku a Kérouvim al Aaron, val badav mil mala, vaya richu abadim, vaya raou rache abadim, mina kodesh al pene adevir, velo iraou achutza, veyusham adayom aze. Mais attendez, c'est-à-dire qu'il y a des Kérouvim qui mettent la. Qui, c'est-à-dire que tout le motif qui revient dans le Kodesh HaKodashim, c'est à Kérouvim. La Mazekol Kachachouv. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela représente, ces Kérouvim? Non seulement il y a les Kérouvim sur le Aaron, qui datent de l'époque de Moshe, mais Shlomo va faire en plus des Kérouvim qui montrent la direction des Kérouvim. Lama, c'est tellement important, les Kérouvim. Abodai, sachez que les Kérouvim, c'est présent dans tous les temples de l'époque, pas que le temple d'Israël. Dans les temples de Avodah Zara, il y a des Kérouvim partout. Mais c'est quoi les Kérouvim? La définition, les amis, d'un Kérouv, c'est une moto, une voiture, un vélo, un skateboard, un char. Kérouvim, c'est le moyen de transport de Dieu. Dans les temples d'idolâtrie, vous avez toujours un Kérouv, et sur ce Kérouv, non, ce n'est pas un chou, mon ami, et sur ce Kérouv, eh bien, il y a la statue du dieu. En général, dans les temples d'idolâtrie, le Kérouv, c'était en général un moyen de locomotion avec des ailes, voire un animal avec des ailes. Donc, on connaîtra, on pensera évidemment à Pégase dans la mythologie grecque, le cheval ailé. Mais en fait, cette définition n'est pas que mythologique. Dit David Ameller dans Tehilim, Vayirkov al Kérouv vayahof, vayede al kanfe ruach. Nous dit Tehilim que Akadosh Baruch Hu rochev al Kérouv. Donc les Kérouvim, c'est l'endroit sur lequel on a l'impression qu'on va trouver Dieu. Dans les temples d'idolâtrie, j'ai dit, c'est très clair, tu as le Kérouv et tu as dessus la statue du divin, de l'idole représentant le divin. Mais dans le peuple juif, nous dit le Rambam dans le Moré Nevuchim, que les Kérouvim sont la hochacha. Que Elohe Israël en l'odmout ve en l'odmout taguf. Il dit pourquoi? Mais d'abord, il répond pourquoi il y a deux Kérouvim, mais pas un Kérouv. Et il n'y a pas un Kérouv parce qu'il n'y a rien au-dessus. Et donc, s'il n'y avait eu qu'un Kérouv, tu aurais pu penser que, en fait, c'est ça le Dieu d'Israël. Non, il y en a deux. Donc, tu sais que c'est pas ça, tu sais que c'est bel et bien des Kérouvim. Donc, tu regardes au-dessus pour trouver Dieu et tu vois qu'il n'y a pas de statue. Et donc, tu comprends que Elohe Israël en l'odmout ve en l'odmout taguf. Les Kérouvim sont la dimension chol du Kodesh HaKodashim. Alors qu'il y a également En Baaron Rak Shne Luchot Avanim Asher Iniach Sham Moshe Bechorev Asher Karat Hashem Im Bnei Israel Betzeta Meretz Mitzrayim. Il y a également la Torah, Luchot Abrit, la Torah qui sont dans l'Aaron. En d'autres termes, il y a les Kérouvim qui sont du domaine du Chol, ce sont des statues ou alors des broderies sur le tapis, sur la tapisserie. Et il y a également la Torah Kodesh et l'Aaron et le Chot Abrit. En d'autres termes, Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit de l'union du Kodesh et du Chol. À ce moment-là, Vayi kash vayi et levavo ki ata yadata levadecha et levav kol bnei adam leman yiraucha kol hayamim asher hem chayim al pnei adamah asher natata laavotenu gam el anochi asher lo b'amei amecha Yisrael hu uva me'eretz rechoka leman shemecha. Qui ishmeun et shimcha gadol, vet yadecha chazaka, uzroacha netuya, uva vit palel la baitaze, atat ishma shamaim, mechon shiftecha, veasita kechol asher ikra elecha nochi le man yedaun, kola meharet et shimcha, et shemecha, leiraotecha, kamecha Israel, veladat ki shimcha nikra el la baitaze, אשר בניתי. נו, יפה מאוד. יפה מאוד. שלמה, אתה en train de faire sa tfila d'inauguration, dans laquelle il dit, tu dois accepter, mina mait hazeh, les paroles de nous, Am Israël, mais également les paroles du monde entier, les paroles de tous les goyim. La dimension universelle du Beit HaMikdash est mise en place. Mais attention, il aurait pu s'arrêter là. Mais non. Shlomo continue en disant « Ki yetze ammecha la milchama lo yivecha bederech asher tishlachem veitpalelu al Hashem derech ha'ir asher bachart ba vabait asher baniti lishmecha ושמעת השמיים את תפילתם ואת תחינתם ועשית משפטם כי יחטו לך כי אין אדם אשר לא יחטא וענפת בם ונתתם ונתם זכה לפני אויב ושבום שוביהם אל ארץ אויב רחוקה או קרובה והשיבו אל ליבם בארץ אשר נשבעו שם ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם למור חטאנו והבינו רשענו ושבו אליך בכל לבבם, בכל נפשם, ארץ אויביהם, אשר שבו אותם והתפללו אליך דרך ארצם, אשר נתת לאבותם עיר, אשר בחרת והבית אשר בניתי לשמך. ושמעת השמיים מכון שבתך את תפילתם ואת תחינתם, ועשית משפטם. ודונק, וסלחת לעמך אשר חטאו לך, ולכל פשעיהם אשר פשעו בך, ונתתם לרחמים לפני שוביהם ורחמום. כי עמך ונחלתך הם, אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? On est en train d'inaugurer le Beit HaMikdash. Le moment où c'est l'osmose complète entre Am Israël et Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Attends. Il faut dire qu'Am Israël, il va fauter, il va faire pas du tout ce que tu veux, il va partir en exil. Aval ze derech hamakom hazeh, que là-bas, il va prier pour revenir vers toi. דרך המקום הזה. שלמה, évidemment, voit par esprit, par esprit prophétique qu'il y aura l'exil et que donc il va falloir donner une tikva pour sortir d'exil. Cette tikva, cette relation avec Dieu, même là-bas, nous provient grâce à la réalité du Beit HaMikdash. Même lorsqu'il sera détruit, on priera el hamakom hazeh. El kivun amakom hazeh. Car c'est l'endroit que Dieu a choisi. Et donc c'est par là qu'on restera en contact, même lorsqu'on n'y sera pas. Dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Sefer HaKuzari, Ma'amar Revi'i, que le vrai problème qu'on a avec le christianisme, avec l'islam, ce n'est pas véritablement les arguments qu'on a donnés pour démonter leurs idéologies, qu'on a dit dans le Ma'amar Rishon, qui étaient des arguments techniques, il dit non, le vrai problème qu'on a, c'est qu'ils ne savent pas quel est le kivun atfila, qu'ils ne savent pas quelle est la direction de la tfila. Alors que les musulmans se tournent vers la Mecque, et donc tournent leur dos, pour ne pas dire autre chose, vers Jérusalem, les chrétiens se tournent vers l'Est, en souvenir des temples d'idolâtrie qui tournaient vers l'Est, par rapport au Dieu soleil. Lorsque tu ne sais pas vers où te tourner, tu ne connais pas ta relation avec Dieu. Le fait, nous dit Shlomo dans l'inauguration du Mikdash, que même lorsqu'on n'y sera plus, on se tournera vers le Beit HaMikdash pour nous rattacher à Dieu, montre que notre relation avec Dieu restera à jamais vraie, restera à jamais propre. Même lorsqu'on n'y sera pas, on saura vers où se retourner pour pouvoir y retourner. Ki vdalta lecha lenachala mikol ha'aretz, kasher dibarta beyad Moshe avadecha beotziacha et avotenu mimitzrayim, Adonai Elohim. Ce n'est pas seulement, entre parenthèses, nous dit Shlomo, ce n'est pas seulement Beit HaMikdash, c'est Kol Eretz Yisrael. C'est ça que tu as promis à Moshe lorsque tu nous as sortis d'Égypte. ויהי כחלות שלמה להתפלל אל השם את כל התפילה והתחינה הזאת קם מלפני מזבח השם כי מקרוע על ברכיו וכפיו פרוסות השמיימה ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל כל גדול למור צריך כשלמה סוציין דבון למזבח il se relève et à ce moment là ברוך השם אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דיבר לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו. סיקווסה. ברוך השם אשר נתן מנוחה לעמו ישראל. סליחה, ממקום, c'est un nom de Dieu. Donc on priera plutôt vers Dieu pour qu'il reconstruise le Beth Amikdash, mais pas forcément en direction du Beth Amikdash. Si on suit le sens profond du texte, non, non, non. Car Makom, évidemment, est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Hu Mekomo Shel Olam, Ve'en Haolam Mekomo. C'est-à-dire que le fait qu'on appelle Dieu Makom, c'est justement parce qu'il a décidé de se dévoiler Bamakom. Comme on voit dans la parasha de cette semaine, que, à propos de Yaakov, on dit Va'yivga Bamakom. C'est-à-dire que on n'attend pas d'abord que Dieu reconstruit le Beth Amikdash, puisque ce n'est pas Dieu qui reconstruit le Beth Amikdash, c'est nous qui allons reconstruire le Beth Amikdash, parce qu'il est resté présent, Bamakom Azé. Nous dit le Rambam, bien que le Beth Amikdash est détruit, la Shrina est toujours présente. C'est pour ça que les murs du Beth Amikdash, bien qu'ils soient détruits, leur Kedusha reste. En d'autres termes, ce n'est pas une notion métaphysique le fait que Dieu s'appelle Makom, mais c'est tout simplement le fait que Dieu ait décidé de s'attacher à un endroit dans lequel il peut se dévoiler. Donc c'était quoi cette histoire de Nachala, de Menucha qu'il a promis à Moshe? Eh bien, ça fait référence tout simplement à la première fois où on nous parle du Beth Amikdash. La première fois où on nous parle du Beth Amikdash, c'est dans la Shirat Hayam. Dans la Shirat Hayam, Moshe, avec Ibn Israël, nous dit « Teviyemo vetitaemo be'ar nachalatach, be'ar nachalatecha » מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. Il s'agit donc ici de la dimension de Beth Amikdash dans lequel on doit s'implanter bien avant la faute du veau d'or. N'en déplaise à un certain Avraham Eshel qui était persuadé que la Kedusha de l'endroit n'était qu'une... un compromis avec l'idolâtrie. Puisqu'il dit, oui, Dieu a construit le Mishkan, il a ordonné de construire le Mishkan après le veau d'or. Donc, on a montré qu'on n'était pas capable de s'attacher à des concepts abstraits. Donc, il nous a donné un temple comme les idolâtres avaient un temple. Seulement, c'est faux. Car la Shirat Hayam est donnée et lancée bien avant le veau d'or. Donc, la notion de Kdushat HaMakom est fondamentale autant que Kdushat HaZman et Kdushat HaAdam. ויהי השם אלוהינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ועד יתשנו, להטות לבבנו אליו, ללכת בכל דרכיו, לשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו אשר ציווה את אבותינו. דברים הניתו לבחון הרפרנס ובית המקדש, סדון נוח, כאילו רדיו קונסטרויר עם תיבה, כאילו דיר עושי אנטום. זה נכון, זה תות אפי נכון, סקוטודי, זה סום פורסום הניתו, מ... Moi, j'ai parlé de la référence au niveau du pshat et pas au niveau de l'enseignement de la Kabbalah. Donc, au niveau de la Kabbalah, tu as tout à fait raison. Au niveau du pshat, là, clairement marqué, « Mikdash Hashem konenu yadecha », c'est dans la Shirat Hayam. Alors, Beseder, Zehu, c'est bon, on a terminé. Nachon, on a terminé. Donc, « Veyu devaray ele asher itchananti lifnei Hashem » קרובים אל השם אלינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. Qu'est-ce qu'il dit ici, Shlomo? Il vient terminer ici. Il vient terminer son monologue et il dit, ריבונו של עולם, fait que יהיו דבריי אלה אשר התחננתי לפני השם, קרובים אל השם יומם ולילה. Tu nous as demandé à nous que ta Torah, elle soit קרובה אלינו יומם ולילה. אין בעיה, c'est donnant donnant. Ta Torah, elle est krova elenu yomam valayla? Devaray, elle est krovim elenu, krovim elecha, secha, yomam valayla. S'il y a une kedusha dans l'endroit, et qu'elle n'est qu'en Israël, pourquoi le Mishkan avait le statut de kadosh? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais que j'avoue que je ne pensais pas qu'il viendrait de toi. Car toi, je sais que tu es un Talmid Chacham Gadol, et que donc je suis évidemment persuadé que tu connais très bien le Talmud Maseret Megillah pratiquement par cœur. Et donc tu sais là-bas qu'à la page 17, eh bien le Talmud nous dit que effectivement à propos de la question Si on dit que le Hallel, il doit être dit qu'en Eretz Israël, alors comment ça se fait qu'on a dit le Hallel en Égypte? Eh bien, répond à cela le Talmud en disant que avant qu'on rentre en Eretz Israël, Kol ha'aratzot urcheru lomar shira. Mais depuis qu'on est rentré en Israël, c'est qu'en Israël, il y a une différence qui est faite avec le reste du monde. Donc, avant qu'on rentre en Israël, tout le monde entier pouvait être l'endroit du Mishkan. Mais à partir du moment où on est rentré avec Yoshua, c'est terminé. Le Mishkan est à Jérusalem ou à Ramoria. C'est d'ailleurs tout le problème qu'on a avec ce qu'on appelle Betronio, avec cette espèce de temple alternatif qui avait été fait en Égypte par Ronio à Cohen, lorsque on a détruit le Beth Amikdash, le Beth Amikdash a été détruit par les Babyloniens. Il est parti en Égypte, à Héliopolis, et il a fait là-bas un temple pour Dieu. Zélo Bécédère. Tu comprends? D'où le problème est là-bas. Donc maintenant qu'on a mis cela en place, eh bien, quel est l'objectif? L'objectif de ce Beth Amikdash, quel est-il? Et voilà, je t'avais dit que tu savais, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à... au verset qui suit, c'est là, j'étais perdu dans mes pensées. Verset Samer. Les ma'an dat kol ame ha'aretz ki Hashem o Elohim enod. L'objectif final du Beth Amikdash, c'est vidgadilti, vidkadishti, leine amim rabim. C'est-à-dire que le but, c'est que le monde entier, les nations, enfin connaissent Akadosh Baruch Hu. Le mandat, kol ame haaretz, ki Hashem ou Elohim, enod. Nous, on sait, on n'arrête pas de l'expliquer, mais il est temps que les nations en prennent également conscience. Vaya levavechem, shalem im Hashem Elohechem, Eloheinu, slicha, la lechet bechukai, lishmo mitzvotai kemazé. והמלך וכל ישראל עמו זובחים זבח לפני השם. ויסבח שלמה את זבח השלמים, אשר זבח להשם בקר 22,000. מה זה 22,000? כמניין הלוויים, à l'époque du désert. Pour dire que maintenant on devient les Lévi'im du monde entier. On n'est pas encore passé au stade de Kohané à Olam, mais on devient les Lévi'im. C'est-à-dire que les Kohanim doivent amener la Avoda. C'est-à-dire que les Kohanim, quand on est Vatem Tiulim Amlechet Kohanim Vegoy Kadosh, le but c'est à ce moment-là de la Avod et Avoda Tachem Bishvil Agoyim. Mais Lévi'im, leur rôle est d'enseigner Da'at Hashem. Comme on peut voir d'ailleurs dans la parasha de cette semaine, que Lévi, son rôle c'est Yilave Ishir Elai. Mais c'est dangereux, vu que le Rambam nous dit qu'on ne doit pas enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas Agoun ou Tam. C'est pas que le Rambam, c'est déjà dans le Talmud. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas Agoun. C'est Nachon. Mais pourquoi c'est dangereux? J'ai pas besoin de la Torah pour être Agoun. D'ailleurs, pas Tam, hein, mais Agoun. J'ai pas besoin de la Torah pour être Agoun. Je te rappelle ce qui a marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot, Derech Eretz Kadma la Torah. Donc, je peux apprendre à devenir quelqu'un de bien sans la Torah. Donc, la personne qui n'est pas encore au stade d'être un mensch, comme on dit en arabe, eh ben, on ne lui enseignera pas la Torah. Il ne pourra pas de toute façon comprendre Da'at Hashem. Donc non, ce n'est pas du tout dangereux. Lorsqu'on a une dimension de Derech Eretz, alors on peut commencer à étudier la Torah. Lorsqu'on ne l'a pas, eh ben on n'a pas. Et donc, on ne va pas lui enseigner à lui. Ça va? Ok. Vetzon me'avesrim alef. ויחנכו את בית השם המלך וכל בני ישראל. ביום ההוא קידש המלך את תור החצר אשר לפני בית השם, כי עשה שם את העולה ואת המנחה ואת החלבי השלמים, כי מזבח הנחושת אשר לפני השם קטון מאכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. ויעש שלמה בעת ההיא את החג, וכל ישראל עמו קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים לפני השם אלוהינו שבעת ימים ושבעת ימים 14 יום. C'est-à-dire que nous dit ici la Torah, mais justement, c'est exactement ça le truc. Mais les peuples n'avaient pas forcément cette notion de Eretz. Lo nachon. Les peuples doivent être des gens moraux. On attend ça d'eux autant que des juifs. Donc les peuples doivent être moraux, il n'y a aucun problème. Il faut qu'ils se mettent un petit peu à devenir des gens bien. Ils ont plein de gens qui leur apprennent à être des gens bien. Emmanuel Kant, Wittgenstein est juif, tu vas me dire. Mais par exemple, Descartes, par exemple, Leibniz, tous ces gens-là qui ont expliqué aux nations comment être des gens bien. Même Sartre. C'est-à-dire, donc, ils ont ce qu'il faut pour devenir des gens bien. Quand ils seront des gens bien, eh ben, on commencera à leur enseigner la Torah des Goïm. OK ? Et donc, finalement, on a fait 7 jours de fête d'inauguration et 7 jours de fête de Chag à Sukkot. Yom HaShemini, Shilach et Ha'am, Vayivarechu et Ha'melech, Vayivarechu La'olehem, La'olehem sera Semechim Vetove Lev. Al kol ha-tova asher asa Hashem le David avdo ou le Israël amo. Waouh. Zéro. Zéro, c'est terminé. Bémet, à cet endroit-là, on aurait pu terminer. On aurait pu terminer. Ça y est, on est au top. Mais la Torah n'est pas d'accord avec Kant, ni Descartes d'ailleurs. L'homme à l'eau. Sache, mon ami, que la Torah n'est pas vraiment en désaccord avec les philosophes dans ce qu'ils disent, mais est en désaccord avec ce qu'ils ne disent pas. C'est-à-dire que le problème du philosophe, ce n'est pas dans ce qu'il dit en général, c'est dans ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire qu'il enlève toute une partie de la réalité qui est la partie du dévoilement. Mais dans la recherche kantienne de être quelqu'un de moral, parce que la sagesse t'amènera à être quelqu'un de moral, pourquoi pas ? Alors, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas faux, ce n'est pas suffisant. Okay ? Il y a une différence entre c'est faux et ce n'est pas suffisant. Okay ? D'ailleurs, la Torah n'est pas d'accord avec Kant et Descartes. Je t'ai pas dit que le juif, il devait apprendre toute son identité de Kant et Descartes. J'ai dit les goïms. Kant dit que tu dois dire la vérité à tout moment, l'impératif kantien. La Torah n'est pas d'accord. La malo. Arrête, mutar les chanot mipne à shalom. Ava zelo chova. Zelo chayav les chanot. Arbe yoter tov, la guide, emet kol azman. Barou. Seulement la Torah, elle est pragmatique. Mais c'est idéal de le daber, emet. Il n'y a aucun débat là-dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Je t'invite à revoir ce que j'ai expliqué sur le Rav HaNazir, que le Rav HaNazir, quand il a dit « Tant que Jérusalem ne sera pas libre, je ne sors pas de chez moi », il n'est pas sorti de chez lui pendant 19 ans. Je te renvoie à l'Ech Lecha. Ok. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit à l'Ech Lecha ? Ah, que... Tu parles de Sarah qu'elle a des... Attendez. Être moral ou être juste ? Il y a une nuance. On a une obligation d'être droit. On le voit depuis la nuit des temps, que chaque écart nous coûte cher. Ah oui, tout à fait. Nous devons être moral et nous devons également être juste. Zénachon. D'après le judaïsme, la morale et la justice vont de pair. C'est-à-dire que la morale, c'est un acte qui nous emmène à une augmentation de la vie. La justice, des fois, elle va tuer quelqu'un. Mais c'est pourquoi ? C'est pour que la vie puisse continuer son cours. OK ? Donc, ça veut dire que la justice et la morale ne sont pas deux entités qui doivent être en compétition, mais au contraire, en complémentarité. OK ? Donc, on aurait pu, comme j'ai dit, terminer à ce moment-là de l'histoire. Et non, on ne termine pas à ce moment-là de l'histoire. Vayi kechalot Moshe livnot et beit Hashem, veit beit Hamelech, veit kol cheshek Shlomo asher chafetz la'asot. Une fois que tout est prêt, on ne pouvait pas ne pas arriver à cela. Vayera Hashem et Shlomo shenit, kasher nira elav begivon. Ça y est, cette fois Dieu apparaît à Shlomo, Nevoa, Bebet Amigdash. Vayomer Hashem Elav. Imaginez ce que c'est, Nevoa, Bebet Amigdash. Shamati et tefilatecha, vetechinatecha, asher itchananta lefanai. Higdashti et abayit hazeh, asher banita, lasum shemi, sham, ad olam. Ad olam, donc même quand il n'y a pas de maison. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. ואתה, אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר לעשות, ככל אשר ציוויתיך, חוקיי ומשפטיי ותשמור, והקימותי את כיסא ממלכתך על ישראל לעולם, כאשר דיברתי אל דוד, על דוד אביך לאמור, לא יכרת לך איש מעל כיסא ישראל. יהודי שלמה, je te demande maintenant une seule chose. Sois le successeur de David. Alors, quoi? Dieu ne dit pas la vérité à Abraham. Et si on ne doit pas apprendre de Dieu, de qui le ferait-on? Eh bien, moi, je te renvoie donc pas à Lech Lecha, mais à ce moment-là, à Vayera, parce que tu fais référence au moment où Dieu, il a dit « Afomna meled v'ani zakanti ». Donc, c'est dans Vayera, c'est pas dans Lech Lecha, d'abord. Et deuxièmement, je t'invite toi à revenir à ce que j'ai dit à Vayera, dans lequel on a expliqué l'enseignement de Magnitou, qui nous explique que le verset ne dit pas qu'il a changé, mais qui dit Vani, Ani Dieu, Zakanti, Milasot Mitzvot, Milasot Nissim. Donc ce n'est pas un changement, c'est au contraire l'explication profonde du verset, c'est que Dieu parle de lui-même. Donc il n'a pas menti. Ça veut dire, ensuite. Donc c'était pas attends Adolam fait Adolam bel et bien prévu que le premier ne soit pas éternellement construit. Ah, j'ai compris. Non, Adolam, Dieu rattache son nom, sa présence, sa kedusha à cet endroit-là. Qu'il y ait maison ou qu'il n'y ait pas maison. C'est-à-dire donc Gam bebaït rishon, ve gam bebaït sheni, et gam entre les deux, et gam entre ce qu'il y a depuis bebaït sheni à bebaït shlishi, yesh kedusha bamakom hazeh. C'est ça que ça veut dire. Ok? Et donc Dieu dit à Shlomo, tu te dois d'être le successeur de David. J'ai envie de te dire, mais c'est évident, je suis le successeur de David, ça va, pourquoi tu me le demandes? Non, parce que tu te dois d'être le successeur de David. Quel est le danger? Le danger, il est que tu nous as montré un Shlomo ici qui était extrêmement universel. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Mais pour cela, tu ne dois pas oublier d'être David. Tu ne peux pas oublier d'être d'abord et avant tout Melech Israël. Tu ne pourras avoir une influence sur le monde que si tu es d'abord Melech Israël. Tu ne peux pas aller gambader ailleurs sans t'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc Shlomo, tu te dois d'être Shlomo, mais tu te dois être aussi le fils de David. Imshov tashuvu natem ubnechem me'acharai, velo tishmeru mitzvotai chukotai asher natati lifnechem, ve'alachtem ve'avatem elohim acherim. En français, ça veut dire quoi? Si vous allez faire l'idolâtrie, c'est-à-dire si vous allez vous attacher à une autre identité, ve'ishtachavitem lahem, ויחרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פניי והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים. Si vous n'êtes plus vous-même, t'inquiète pas, galout. Lama. Lama pour que vous appreniez à redevenir vous-même. Vous savez comment? Parce que les goyim, ils vont vous rappeler que vous n'êtes pas eux. Quand tu fais Elohim Acherim, tu essayes de devenir comme les goyim. Quand tu fais Avodah Zarah, tu t'attaches à une autre réalité. Très bien, tu crois que tu peux être quelqu'un d'autre? J'ai pas envie que tu sois quelqu'un d'autre. Donc je t'enverrai en exil, et là-bas, chez l'autre, d'abord toi, tu te rendras bien compte que t'es pas lui, et lui, il fera tout pour te le rappeler. Pasuk, tête. On est déjà dans le Perek tête. Mais donc, les musulmans qui prient là-bas, c'est dangereux, vu qu'on dit que Dieu entend même l'appel du Yetzer Hara dans la prière. Achon. Kadosh Baruch Hu, il entend les prières des musulmans là-bas. Zedachon. Azma. C'est censé de toute façon être un lieu de prière pour toute l'humanité. Donc il n'y a pas de problème qu'ils prient là-bas. Ils ne sont pas en train de prier l'idolâtrie là-bas. Hein? Donc on n'a pas à avoir peur des musulmans. Adéraba. C'est les musulmans qui ont énormément peur de notre filote. Et là, je suis obligé, puisque tu poses la question, de te donner une édoute. Et je ne te dirai pas si elle est édoute Rishona ou édoute Shnia, pour que tu n'en tires pas des conclusions. Mais un jour, il y a une jeune fille qui allait se marier le soir, qui est montée sur le mont du temple le matin. Ben oui, elle était passée au mikvé la veille pour sa roupa en fin d'après-midi. Et donc, le matin, plutôt que d'aller au kotel, elle a été au mont du temple en état de pureté et elle a été dans les endroits permis par la halakha. Et donc, elle a été au mont du temple. Il y avait à ce moment-là 12 juifs qui étaient en train de monter et de faire tout le tour et machin. Évidemment, comme tu le sais, quand des juifs religieux montent sur le mont du temple, eh bien, ça crée des tensions énormes et les Arabes qui sont là-bas sont comme des foufous. D'ailleurs, il faut le savoir, la Waqf paye des femmes arabes pour être sur le mont du temple et leur seul rôle, c'est pas de dire des Tehillim, c'est dès qu'ils voient des juifs, de venir à côté d'eux et de crier de plus fort possible « Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! » Et donc, il y a plein de femmes comme ça qui entourent le groupe de 12 juifs et qui crient « Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! » Il y a d'autres hommes qui viennent, qui crient. Et tu vois une sensation de comment dire, genre, on est en danger. On crie pour vous faire partir. À ce moment-là, la Kala se met à pleurer. Comme tu le sais, quand des juifs montent sur le mont du Temple, ils sont entourés d'un cordon de policiers et également d'un mec de la Waqf. Même s'il a de moins en moins d'importance, ce mec de la Waqf, heureusement, Baruch Hashem. Et les policiers sont de plus en plus beseder gamour avec les juifs qui montent sur le mont du Temple. À ce moment-là, donc la Kala pleure, il y a un policier qui est un arabe qui vient la voir et qui lui dit « Arrête de pleurer ». Elle dit « Comment ça ?» Elle dit « Regarde-les, vous êtes 12, eux ils sont des centaines. Regardez comment ils ont peur de vous. Regardez comment ils savent très bien la force de vos prières et que vous êtes à la maison et que vous êtes à la maison ici, sur cette montagne. Ils en ont tellement peur. Regarde, des centaines de personnes pour arrêter 12 personnes qui font leur prière. Donc, ce n'est pas à nous d'avoir peur de leur prière. C'est eux qui ont peur des nôtres et à raison. Bekitsour, à ce moment-là, ma Corée, Vamroua, le Rachel, ils le savent mieux que nous. Ben oui, évidemment. Tu sais bien comment ça marche. À chaque fois que tu es à l'intérieur d'un événement, tu n'arrives pas à avoir une vision globale de l'événement. Comme on dit en hébreu, Ein Baalagan Makir Babalagan. Eh oui, quand tu es à l'intérieur, tu ne peux pas avoir une vision globale des choses. Et donc, une fois qu'on a terminé cela, eh bien, c'est bon, ça y est. Zakol Tov. On est prêt finalement à terminer l'histoire. Dieu nous a dit, je suis dans cet endroit-là toujours. Shlomo, il ne tient qu'à toi, en tant que chef du peuple juif, de faire en sorte que cette euphorie de maintenant ne s'arrête jamais. Vous avez compris que d'ailleurs, on a lu dans, j'ai passé le verset sans m'y arrêter, mais qu'on a dit 7 jours d'inauguration et 7 jours de fête. Pendant ces 7 jours d'inauguration, on a dit qu'il y avait des shlamim tous les jours. Shlamim, ce sont des korbanot qu'on mange. Ce qui veut dire qu'entre le 7 Tishrei et le 14 Tishrei, il y avait le 10 Tishrei, Yom Kippour. Ils ont mangé à Yom Kippour cette année-là. Ils n'ont pas jeûné parce qu'on était dans un monde idéal complet. Il n'y avait plus rien à se faire pardonner. On est dans un moment où Bémet, l'histoire devrait terminer. Pourquoi est-ce qu'il y a la suite du Tanakh? Parce que Dieu dit à Shlomo, je sais que vous allez partir en cacahuète. Donc il fallait continuer le Tanakh pour concrétiser ce que je suis en train de te dire, à savoir que si jamais vous partez en cacahuète, vous allez vous rappeler de cet endroit-là, prier vers cet endroit-là et revenir à cet endroit-là. En d'autres termes, le Tanakh ne pouvait pas se terminer dans l'idylle de maintenant. Il fallait passer par cette chute que Akadosh Baruch Hu prédit à Shlomo pour qu'on montre, que pour qu'il nous montre la réalisation de cette prophétie. Et c'est pour ça que le Tanakh se termine, non pas ici, mais se termine à l'endroit, au moment où on ressort de l'exil. On est parti en exil, mais on en ressort pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, les névoïdes de Zecharia, Haggai ou Malachi, et se termine d'Ivrei Hayamim par les mots du roi de Perse, Koresh, qui permet aux Juifs de revenir et qui nous dit « Vaya'al ». Vaya'al pour l'ivnot « Bait la'Hashem ». Et donc, la névoie aurait pu s'arrêter ici, mais comme elle est tout à fait consciente, Dieu savait très bien qu'il était très possible que Amisraël parte en cacahuète, eh bien, il nous dit « Ne vous inquiétez pas, je continuerai à être présent jusqu'à ce que je vous montre que ce que je viens de dire à Shlomo, que si jamais on part en cacahuète, on peut revenir, eh bien, cela se réalise et qu'on revienne. » Ça y est, à partir de ce moment-là, l'histoire de Shlomo est complétée et on va pouvoir se retrouver vers un des moments les plus importants de notre histoire, un des moments également les plus tragiques, puisque cet apogée qui était le Beth Amikdash et l'inauguration du Beth Amikdash ne pouvait pas rester indéfiniment parce que Am Israël a décidé de partir en cacahuète. Et oui, c'est son choix. Et donc, la semaine prochaine, nous verrons comment cette osmose, cette unité, cet idéal atteint à l'époque de Shlomo va tomber de toute sa hauteur lors du schisme avec le fils de Shlomo, Rechavam Moul, face à Yeroboam. Mais ça sera la semaine prochaine. Shabbat shalom, les koulam.